Bonjour pour ce nouveau numéro de Rien à voir, le magazine de la rédaction d'Alternante FM. Nous avons joint par téléphone en Géorgie, avec la complicité de l'Agence culturelle bretonne et du Centre Jesu à Sévenadur, Anna Mouradova. Anna Mouradova traduit des auteurs bretons en russe et des auteurs géorgiens russes en breton. En 2020, Anna Mouradova est récompensée par l'Ordre de l'Hermine pour sa contribution au rayonnement de la Bretagne. Comment a-t-elle vécu la remise de sa distinction ?
C'était un grand honneur pour moi, c'était un peu inattendu, parce que bon, quand je travaillais pour le breton, pour la culture bretonne, je ne pensais pas à une récompense, bien sûr. Et là, quand j'ai reçu un email de l'Institut culturel de Bretagne, de la part de Jan Schuck, c'était une grande joie. Parce que c'est une distinction très haute pour des gens vraiment éminents. Je n'y croyais même pas. C'était une grande joie. Et bien sûr, j'étais ravie et j'attendais avec impatience mon voyage en Bretagne. Mais hélas, c'était en pleine période de pandémie. Donc, j'ai pas pu y aller. Et ce sont les représentants de l'Ordre de l'Hermine, Riwan Ankervel et Jan Schuck, qui sont venus à Tbilissi me remettre le collier.
Vous avez suivi des études à Rennes.
C'est ça, j'ai fait mes études à Rennes, au département breton celtique, pour apprendre le breton. J'ai étudié le breton à Moscou, mais c'était l'époque bien avant l'Internet, donc j'avais quelques manuels, je savais lire, je savais écrire, mais je n'avais pas la possibilité d'entendre le breton ou bien de rencontrer un breton bretonnant à Moscou, ça n'existait pas à l'époque. Et là, je suis venue, c'était vraiment très intéressant. C'était passionnant d'écouter le breton et de faire une découverte des dialectes bretons, du folklore breton, des chansons bretonnes. Et c'est un souvenir qui me rassure dans des moments difficiles de ma vie, hein, parce que pour moi, c'est un miracle. Pour quelqu'un qui avait grandi à l'Union soviétique, parce que les frontières étaient fermées, il y avait le rideau de fer, de venir en Bretagne apprendre le breton, c'était comme un conte de fées. Mais pour moi, c'est devenu la réalité.
Est-ce qu'il faut remercier Jules César ?
Ah, je crois pas, parce qu'il a romanisé la Gaule. Et pour ceux qui sont des spécialistes dans des langues celtiques, c'est quand même un peu dommage. Hein. On aurait pu étudier un peu plus de dialectes celtiques.
Mais d'un autre côté, c'est par la lecture de la guerre des Gaules que vous vous êtes rapproché du monde celtique.
Oui, parce que je me suis intéressée aux langues depuis la plus tendre enfance. J'ai appris le latin quand j'avais 12 ans. J'ai un peu oublié maintenant, mais ça revient quand c'est nécessaire. Et j'ai lu La guerre des Gaules de Jules César et moi, je me suis dit, les pauvres Celtes, hein, pourquoi on les a romanisés ?
Mais au fond, pourquoi avez-vous appris des langues minorées ?
Ça fait partie de l'histoire de la famille de mon père et pour moi, l'histoire de la perte d'une langue, c'est quelque chose de très personnel parce que la famille de mon père, ils sont assyriens, ils viennent de l'Iran, de la région du nord de l'Iran qui s'appelle Urmi, à côté du grand lac Salé, Urmi. Et ils ont dû fuir parce qu'il y avait des conflits locaux et en tant que réfugiés, ils sont venus en Géorgie, à Tbilissi, qui s'appelait Tiflis à l'époque. Et ils s'y sont installés parce qu'il y avait déjà une communauté assyrienne assez importante à l'époque. Mais comme il fallait apprendre le géorgien et le russe, parce que la Géorgie faisait partie de l'Empire russe, mais dans un État indépendant, donc, ils ont peu à peu abandonné la langue. Mes arrière-grands-parents étaient lettrés, ils pouvaient lire et écrire en assyrien. J'ai appris la langue plutôt de mon grand-père que de mon père, mais mon grand-père, il parlait très bien la langue assyrienne, ou bien les linguistes l'appellent l'araméen moderne. Mais il ne savait ni lire ni écrire, et mon père, il parlait un tout petit peu, mais c'était pas vraiment une transmission de la langue, c'était plutôt la perte de la langue. Donc, j'ai dû réapprendre la langue, y compris la langue écrite. Je suis allée à l'église assyrienne de l'Orient, à Moscou, parce que je vivais à Moscou à l'époque, et là-bas, il y avait l'école de dimanche, mais ça existait aussi en Bretagne, quand dans le cadre de l'église, il y avait un prêtre ou un professeur qui enseignait la langue et enseignait l'alphabet. Donc, j'ai suivi ce scénario et j'ai pu réapprendre la langue, je dirais pas la langue maternelle parce que ma mère est russe, mais ma langue paternelle, si j'ose dire. Et j'ai amené ma fille aussi dans cette école, mais elle n'était pas très motivée. Enfin, elle était motivée parce qu'elle était curieuse quand elle était petite. Maintenant, elle a abandonné la langue, mais quand même, elle a quelques notions. C'est-à-dire que si elle le veut, elle peut réapprendre la langue et l'utiliser. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et je crois que les Bretons qui essayent de faire revivre, de maintenir la langue bretonne vont tout à fait comprendre cette histoire parce que c'est très similaire.
Le breton, vous l'avez appris donc par l'écoute, par des cassettes.
Ah non, pour des cassettes, c'était déjà un grand problème parce que ça n'existait pas. Les amis de mes parents m'ont apporté quelques cassettes avec des chansons bretonnes et c'est tout, mais le breton chantait, c'est pas le même accent, c'est pas la même prosodie, c'est quelque chose de très différent. Donc, la première fois quand j'ai entendu parler des gens bretons, c'était à Rennes. J'étais déjà venue là-bas pour m'inscrire à la faculté. C'était un peu un choc, mais le pire, c'était mon premier cours de breton parce qu'on était ensemble avec les étudiants, on nous a distribué un texte, je regardais, je comprenais ce qui était écrit. Et il y a eu un jeune étudiant, David, qui a commencé à lire. Et là, j'ai eu vraiment peur parce que je ne pouvais pas comprendre comment les sons qu'il produisait pouvaient représenter le texte qui était écrit. Je ne savais pas qu'il parlait vanté. Et voilà, après, il y a eu un autre étudiant qui avait une prononciation, c'était le breton appris, le breton, disons, standard. Là, j'ai tout compris. Et je me suis dit, ah bon, peut-être je pourrais lire. J'ai lu, c'était à peu près correct. Voilà.
Combien de personnes parlent le breton en Géorgie?
J'ai essayé de faire un petit sondage à l'internet et quand j'ai rencontré les gens qui travaillent à l'ambassade de France, justement pour la remise du collier d'Hermine, il y a les Bretons qui travaillent là-bas à l'ambassade. Il y a eu une jeune personne qui faisait un stage à Tbilissi et je sais qu'ils ont quelques connaissances en breton, mais pour parler breton, seulement quand on a filmé le jeu télévisé à Fouettère, qu'on a parlé breton à Tbilissi. Il n'y a pas de communauté bretonnante à Tbilissi, enfin pas encore, on ne sait jamais. Peut-être ça va venir.
Donc vous êtes la seule à parler le breton en Géorgie.
Oui, pour l'instant, oui, mais comme je n'ai pas d'interlocuteur, si je parle breton, c'est plutôt au téléphone avec mes amis qui sont en Bretagne actuellement.
Une langue, si on ne la parle pas, on a peut-être tendance à l'oublier. Donc vous, pour la pratiquer, donc grâce au téléphone, c'est possible.
Oui, c'est possible. Et puis, j'ai gardé des contacts avec les gens avec qui on était à Rennes 2. Puis, j'ai fait beaucoup de stages en Bretagne. J'ai rencontré des personnes charmantes, agréables, et on garde toujours le contact. Et ça fait déjà 30 ans, je crois, qu'on est amis. Et ce que j'apprécie chez les Bretons, une fois on devient amis, c'est pour la vie. On garde toujours le contact. On peut ne pas se parler pendant des mois et puis hop, il y a une conversation, ça repart et c'est vraiment touchant, je crois.
Et est-ce que vous pensez ou vous rêvez en breton?
Je ne sais pas. J'y ai jamais pensé, peut-être. Peut-être. Mais comme je parle plusieurs langues, l'idée ne m'est jamais venue de fixer le moment en quelle langue je rêve, je pense. Parce que ici en Géorgie, la situation est très intéressante. Presque toute la population, surtout dans les grandes villes, est multilingue. À Tbilissi, la plupart des gens possèdent au moins deux langues, le géorgien, le russe. Si c'est une famille mixte, par exemple, s'ils sont des Arméniens, donc ils peuvent parler l'arménien à la maison, puis utiliser le russe et le géorgien quand ils sont en dehors de la maison, donc trois langues. Puis c'est une tradition de connaître un petit peu des langues des voisins. Par exemple, mon grand-père qui vivait à Tbilissi, il pouvait parler plus ou moins 7 ou 8 langues. C'est normal. Donc, on saute toujours d'une langue à l'autre. Et il arrive parfois, quand j'écoute quelqu'un, il prononce une phrase en russe, puis une phrase en géorgien, puis une phrase en russe. Donc, c'est toujours un mélange de langues. Et du point de vue de linguistique, c'est très intéressant. C'est un phénomène que je n'ai pas vu à Moscou, par exemple.
Vous confirmez que à partir du moment où on maîtrise une, deux, trois langues, c'est plus facile pour en apprendre d'autres?
Oui, bien sûr, quand on a l'habitude de faire une chose, on continue. C'est très difficile d'apprendre la première langue étrangère, surtout pour les adultes, parce que ce n'est pas un problème d'apprentissage de langue. Comme je suis professeur de langues étrangères, j'ai de l'expérience, mais il y a un problème psychologique. On pense que c'est très difficile d'apprendre une langue étrangère quand on ne l'a jamais fait. Quand on parle, par exemple, deux langues au sein de la famille, une autre langue qui est une langue d'État, on ajoute d'autres langues. Bien sûr, il faut apprendre, il faut faire des efforts. Ce n'est pas toujours facile, mais on a dans la tête l'idée que c'est réalisable. En plus, si ce sont des langues de la même famille, on peut s'appuyer sur des langues qui sont similaires. Pour moi, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, il n'y avait pas de problème parce que ça ressemble beaucoup à l'assyrien. Quand j'ai commencé à apprendre le géorgien, alors là, c'était la galère parce que c'est une langue kartvel. Je ne peux pas m'appuyer sur aucune langue que j'ai appris avant parce que ça ne ressemble à rien du tout. Mais c'est intéressant. Et puis, comme je vis ici, je dois apprendre le géorgien et au moins avoir des notions du géorgien parce que c'est la langue d'État.
Vous avez assimilé le breton en combien de temps?
En 4 ans, j'ai commencé quand j'avais 15 ans et je suis arrivée en Bretagne déjà avec quelques connaissances qui m'ont permis à m'inscrire en licence, c'est-à-dire j'avais 19 ans. Et donc pendant 4 ans, j'ai étudié la grammaire, j'ai fait des exercices pour pouvoir lire et écrire. Je lisais assez bien.
Il y a une différence entre lire et puis pratiquer la langue.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand on lit, on comprend ce qui est écrit, mais on ne construit pas une phrase dans sa tête. Mais pour prononcer une phrase, compliquée et correcte, c'est un autre mécanisme. Il faut réfléchir, il faut que tout soit sur place dans cette phrase. C'est beaucoup plus compliqué que la lecture. Par exemple, en géorgien, j'arrive à lire, par exemple, les actualités. Quand j'écoute quelque chose, je comprends, mais pour parler, je veux dire parler correctement et construire de belles phrases, ça m'est toujours difficile. Ce sont des phrases très, très simples.
Vous parlez combien de langues?
Disons, je parle, c'est-à-dire je pratique à peu près 5 ou 6 langues. Je lis en plusieurs langues. Je ne peux pas dire que je parle latin, hein. Je lis en latin, mais je parle russe, assyrien. Maintenant, je parle aussi géorgien, français, anglais, breton. Les autres langues, je lis plutôt. Je peux écrire un message en m'appuyant sur les dictionnaires.
Et au niveau de difficulté d'apprentissage, est-ce que le breton c'est plus compliqué à apprendre que le géorgien?
Non, 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 non. Le géorgien est beaucoup plus compliqué parce que le breton, disons qu'après la réforme de Gonidec, le breton a été un peu standardisé, voire simplifié. Ça ne veut pas dire que c'est une langue simple, mais la langue, au moins écrite, est devenue plus logique. Dès qu'on comprend comment la langue est faite, voilà, on peut construire les phrases. Le géorgien, il n'a pas été vraiment comme ça standardisé. Juste un exemple. En breton, les verbes se conjuguent plus ou moins de la même manière. Il y a quelques exceptions, mais on peut les compter sur les doigts. En géorgien, tous les verbes sont irréguliers et le complément d'objet direct est inséré dans la forme verbale. Alors là, j'arrive pas à maîtriser, enfin pas encore, parce qu'il faut apprendre chaque verbe, chaque conjugaison. C'est un peu fou. C'est comme si, par exemple, en français, tous les verbes étaient du troisième groupe.
Comme c'est pas votre langue maternelle, c'est plus difficile.
Oui, c'est difficile. On peut apprendre quelques phrases les plus courantes et les utiliser comme ça correctement, mais moi, mon but, c'est d'apprendre la langue comme il faut, c'est-à-dire pouvoir construire un texte formel, par exemple. Parce que là, maintenant, si je m'adresse dans des structures d'État et il faut embaucher un avocat, moi, je ne peux pas, par exemple, écrire une demande ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est compliqué. Mais quand je parle, les gens me comprennent. Moi, je les comprends au niveau au quotidien. Ça ne pose aucun problème. Parce que parfois, on peut raccourcir une phrase, on peut sauter un verbe. Tout le monde va me comprendre. Le plus difficile, c'est de faire parler géorgien parce que presque tout le monde parle russe.
Parlez le breton et vous le traduisez aussi.
Oui, c'est ça. Et j'ai commencé juste par la traduction d'un auteur géorgien, mais du russe, parce que je parlais très peu géorgien à l'époque. C'était Rezo Gabriadze qui travaillait à l'époque en Bretagne, au Théâtre national de Bretagne. C'était en 1993. Et moi, j'étais son interprète, parce que les acteurs étaient français, lui était géorgien, et moi. Non seulement je pouvais traduire du russe en français et vice-versa, mais j'avais quelques notions quand même de la culture géorgienne et de la mentalité. Et donc, on m'a demandé de l'aider. Et là, je lui ai proposé de traduire ces petites histoires de son enfance en breton. Et on a fait un livre qui a été édité chez Oriez et qui s'appelle Koutaïssi, c'est le nom de la ville natale de Rezo Gabriadze. Puis j'ai traduit des auteurs russes, des classiques comme Tchekhov, mais aussi des auteurs contemporains comme Viktor Astafiev. J'ai traduit un recueil de légendes du breton en russe qui était édité et réédité 4 fois à Moscou. Donc, elle a connu un certain succès. Et là, je viens de traduire pour l'édition Annalar, un livre qui a été très connu avant la Révolution russe, mais puis il était oublié. Le livre par Yekaterina Balabanova. C'était une femme extraordinaire. Elle est venue en Bretagne, je crois que c'était en 1860. Elle a appris le breton et s'intéressait beaucoup au folklore, aux légendes bretonnes. Donc, c'était ses carnets de voyage, ses témoignages. Et c'était tellement intéressant. C'est Riwan Onkervel qui m'a demandé de traduire tout ça. Et qu'est-ce que Marie, quand je lui ai envoyé cette traduction, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de situations amusantes, des malentendus, des histoires qu'elle a recueillies qui sont connues en Bretagne, d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Et vraiment, j'étais très contente de voir le livre. Et puis, j'ai reçu beaucoup de commentaires des lecteurs qui ont lu la traduction. Donc, mes amis en Bretagne m'ont écrit que c'était très intéressant. Et je suis très contente qu'on a quand même gardé un souvenir de cette demoiselle en Bretagne.
Qu'est-ce qui vous motive à traduire des œuvres en breton?
Mais justement, ça fait partie de mon histoire personnelle, de mon affection pour les langues qui ont des difficultés et qu'on doit aider pour survivre. J'ai déménagé à Tbilissi, dans un district où habitent les Assyriens. Là, dans la rue, on peut encore entendre parler assyrien. Je parle assyrien avec certains voisins, mais je vois comment la langue disparaît, comment les jeunes, bien sûr, ils ont beaucoup de tâches plus importantes que de garder la langue qui ne rapporte rien, disons, au point de vue matériel. On ne peut pas faire une carrière avec ça. Mais il y a d'autres gens qui essayent quand même de maintenir la langue, de la transmettre aux enfants, aux petits-enfants. Et pour moi, c'est j'ai de l'affection pour toutes les langues qui sont dans la même situation. Donc, si je peux faire quelque chose pour l'assyrien, pour le breton, pourquoi pas, hein? Ça me fait plaisir.
Vous connaissez un petit peu le galop?
Oui, parce que j'ai vécu à Noyelles-sur-Ilaine et je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, les gens de la génération de mes parents parlait galop, hein, j'avais du mal à les comprendre. J'ai appris le français, je maîtrisais assez bien le français, mais quand j'ai entendu le galop, je me suis dit, est-ce que j'ai bien appris la langue? On m'a dit, non, 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 c'est du galop, c'est pour ça que tu comprends pas.
Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en breton?
Mignon et Ker, là où est non, rouge ou d'Eden et d'or gan pèse à Ram, évidemment, à Bozonek, Trougar et d'or, Trougar et d'avez à l'en et à Androidigé, je me grette à Bevet Breis.
Vous êtes romancière aussi?
Oui, parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais en Bretagne et puis j'ai continué en russe. Il y a deux romans qui ont été publiés à Moscou.
Et qui ont été traduits en français?
Non. J'espère qu'ils seront traduits un jour ou l'autre, parce que le premier, ça porte sur un manuscrit qui était disparu, un manuscrit en breton qui a été trouvé par le pelletier et puis perdu et retrouvé à Moscou. Voilà, c'est comme un roman policier. Bien sûr, j'ai inventé pas mal de choses, mais il y a quand même du vrai dans ce roman aussi, dont l'action se passe en Russie et en Bretagne.
Merci Anna Mouradova, romancière et traductrice, pour sa libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'Agence culturelle bretonne et du Centre Jésus à Sévenadur.
Je ne sais pas si vous avez envie de commenter l'actualité au niveau de la Russie et de l'Ukraine.
La seule chose que je puis dire, c'est que je suis chagrinée que les ondes politiques des dirigeants de pays ne peuvent pas s'entendre. Parce que moi, je crois que s'il y a des conflits armés, s'il y a une guerre, c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Parce que ma mère est russe, oui, mais j'ai travaillé en Ukraine, j'ai beaucoup d'amis en Ukraine. Et ça me fait vraiment physiquement mal de penser qu'il y ait une guerre entre les deux pays. Ça ne doit pas exister, ça ne doit pas avoir lieu. Et là, je ne suis pas assez compétente pour donner un commentaire et dire quelque chose de censé, quelque chose d'intelligent sur ce sujet, mais j'aime pas les guerres, hein. Et je ne comprends pas les gens qui commencent des guerres, parce que il y a les gens qui commencent des guerres, mais il y a d'autres qui sont tués, il y a d'autres qui sont souffrent, et ce sont des gens qui sont pour rien. Voilà.
C'était le cas aussi au niveau de la
Il y
Géorgie.
a eu une guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008, on a eu vraiment peur parce que bon, mon père vient de Géorgie, il s'est marié en Russie, donc une partie de la famille est en Russie, l'autre en Géorgie. Je ne vais pas vous dire quel genre d'émotion on a eu hein, des deux côtés de la frontière, parce que, à mon avis, ça ne doit pas avoir lieu.